d'emploi. Mode d'emploi.
Vous êtes sur FPP 106.3 et c'est l'émission Mode d'emploi avec les militants d'attaque et d'anciens journalistes du PIAF.
Et non, nous ne bégayons pas, nous sommes bien, et ça, c'est la rentrée, donc c'est la reprise, et l'émission Mode d'emploi pour la version attaque. Alors une émission très attaque aujourd'hui, vu que nous recevons le festival Images Mouvementées, festival de cinéma, mais festival de cinéma d'attaque, et d'attaque Paris. Donc nous recevrons Christine et Ève-Marie qui vont nous parler dans un petit moment du festival lui-même. Mais nous ne commençons pas par les chroniques d'actualité de Jean-Marc Lénon. Nous les écouterons à la fin, mais les chroniques sont bien d'actualité, mais par Gaël, qui va nous parler de la primaire des écologistes.
Oui, dimanche, j'ai écouté sur France Inter le débat de la primaire des écologistes. C'était un débat de bon niveau, surtout grâce aux candidats, car les journalistes, eux, n'ont pas brillé par leur pertinence. Alors, petite question, Pierre, es-tu petit A un universaliste républicain favorable à ce que les enfants saluent le drapeau tous les matins à l'école? Ou, petit B, un islamo-gauchiste communautariste?
Sûrement.
N'essaye pas de répondre.
Attends, j'essaye quand même.
Non, c'est bon, laisse tomber.
Ok.
Alors, on n'était pourtant pas sur CNews, mais on était à peu près à ce niveau dans les questions autour de l'universalisme, de la laïcité et des discriminations. Voilà comment une des journalistes s'adresse à Sandrine Rousseau.
Vous vous définissez comme écoféministe en guerre contre le patriarcat. Vous vous présentez comme la candidate des minorités discriminées, vision qui encourage un peu les luttes communautaristes. Est-ce que vous croyez vraiment que ce positionnement convient pour une présidentielle qui se doit de rassembler?
Alors Sandrine Rousseau explique que c'est justement en combattant ces discriminations qu'on peut atteindre l'universalisme républicain, qui n'a donc pas de contradiction entre les deux. Mais rien n'y fait. La journaliste insiste. Je cite, « Vous êtes la candidate des différentes humiliations en communauté. » Je fais une petite pause, je vous laisse réfléchir au concept. Ce sera au bac de philo 2022. Alors, on lui réexplique ce que c'est, mais 37 minutes plus tard, elle est restée bloquée sur son schéma de pensée et elle revient à la charge.
Ce qu'on sent quand même à gauche et qui fait débat, c'est au fond la vision que certains de vous peuvent avoir sur la République, le caractère universaliste. Et au fond, est-ce que pour certains d'entre vous, la défense du droit des minorités ne remet pas en cause ce modèle?
Alors heureusement, on a aussi parlé d'économie et d'écologie, c'était la moindre des choses. Delphine Bateau notamment a défendu la décroissance.
Le vote de la primaire est un vote pour ou contre la décroissance.
Et vous n'avez pas peur de faire peur, je me répète.
Alors Delphine Bateau et les autres aussi ont patiemment expliqué ce qu'est la décroissance, que ce n'est pas la pauvreté pour tous, que c'est justement la course effrénée à la croissance qui fabrique de la pauvreté, de la malbouffe, des problèmes de santé, du mal logement, etc. Bref, pour l'auditeur de base de France Inter qui a peur de la décroissance, on a eu une belle explication de ce concept en 5 minutes. Manifestement, les capacités de compréhension de la journaliste étaient en dessous de celles de ses auditeurs, car 5 minutes plus tard, elle remet ça.
Vous avez quand même pointé le gros accident du quinquennat, c'est-à-dire l'accident sur la taxe carbone. Et ce qu'on a vu aussi, c'est la difficulté pour ceux qui déjà sont au plus près de leur argent et de leurs revenus, de dire on va vers un modèle où au fond il y aura moins de croissance et la décroissance. Delphine Bateau, est-ce que vous ne craignez pas au fond de faire peur à ces gens qui déjà la vivent, la décroissance, d'une certaine façon?
Alors déjà, analyser aujourd'hui les Gilets jaunes comme un simple mouvement contre la taxe carbone, c'est n'avoir pas compris grand-chose à ce qui s'est passé. Et puis surtout là, on désigne clairement les écolos comme les ennemis des classes populaires. Alors Delphine Bateau reprend 3 minutes pour lui réexpliquer qu'une politique de décroissance peut profiter aux classes populaires. Mais la journaliste n'a toujours pas compris et elle recommence sur le même thème, bobo vert contre prolo diesel, qui est gravé dans ses circuits neuronaux.
Vous prétendez, notamment vous, Éric Piolle, parler, savoir parler aux classes populaires. Vous vous sentez proche, vous l'avez dit, des Gilets jaunes. Mais est-ce que les Gilets jaunes, qui avaient refusé la taxe carbone, on ne l'a pas oublié, et qui voulaient aussi davantage de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer, ne sont pas aux antipodes de ce que vous êtes en train de proposer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de les pousser vers l'extrême droite, vers le Rassemblement national, en faisant des propositions qui sont très loin de leurs préoccupations?
Parce que pour les journalistes, le vote naturel du pauvre, qui est un beauf consumériste, c'est le Rassemblement national. Et quand on entend cette séquence, on se dit que finalement, les responsables du vote RN, c'est sûrement pas les écolos. Alors, non seulement les écolos, pour ces journalistes, sont des bobos décroissants qui font peur aux prolos, mais en plus, ils sont nuls en gestion.
Alexandra.
En effet, là, Éric Piolle parle donc d'emplois qui sont créés soit dans la sphère marchande, soit dans la sphère publique, donc de l'argent public. Mais j'entends aussi dans tout ce que vous avez dit qu'il y aura des mesures de soutien au pouvoir d'achat, des mesures de soutien à l'emploi, des incitations au comportement vert, des investissements dans de nouvelles structures énergétiques, un renforcement des services publics. Vous ne voulez pas de croissance, vous voulez même la décroissance. Comment allez-vous financer tous ces investissements publics ?
Alors, on reste dans la vieille idée d'il y a 30 ans que l'écologie, c'est bien joli, mais c'est un luxe. Pour ces journalistes, il faut d'abord de la croissance et ensuite, on pourra se payer une Tesla électrique qui est quelque chose d'écologique. Alors, quand cette question est posée, il faut quand même préciser que les candidats ont déjà passé un certain temps à expliquer que c'est au contraire le modèle productiviste qui coûte cher. Par exemple, les subventions à l'agriculture intensive, le gâchis énergétique dans le logement, les coûts en matière de santé, les coûts cachés de l'énergie nucléaire, les destructions d'emplois, et qu'en économisant tout ça, on pourrait financer des choses utiles. Alors, on réexplique à la journaliste, tous les candidats se mettent à lui réexpliquer le coût des aides ou des énergies fossiles, le coût des subventions aux industries polluantes, le coût trop bas de la tonne de carbone dans les droits à polluer. Mais c'est désespéré.
Permettez-moi une question très concrète, parce que 200 euros la tonne, 60 euros la tonne, ça dit pas grand-chose aux auditeurs et pas grand-chose à personne. J'ai un diesel, je paye mon gazole 1,40 à la pompe. Avec Sandrine Rousseau présidente, combien va valoir mon litre de gazole d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ?
Voilà le niveau auquel les journalistes ont essayé de rabaisser le débat. Heureusement, ils n'y sont pas parvenus grâce aux candidats. Alors si vous voulez participer à cette primaire, il faut vous inscrire avant dimanche soir sur lesécologistes.fr pour voter du 16 au 19 septembre. Et si vous n'avez pas été dégoûté, vous pouvez réécouter le débat sur le site de France Inter, sur la page de l'émission Questions politiques.
Et c'était bien sur France Inter, c'était pas Pascal Praud. Hein,
c'était pas sur CNews.
C'est quand même revigorant pour l'avenir ou désespérant pour l'avenir, je sais pas, on va voir. Et alors, notre sujet, alors lui, très économique et très du moment, c'est la peur de l'inflation. On nous en parle, on nous fait croire que l'inflation va nous poser problème ou va nous aider, ou on ne sait pas trop, mais bon, Alex va vous expliquer tout ça.
Oui, et ben, comme on écrivait autrefois, un spectre hante aujourd'hui l'Europe, le spectre de l'inflation. Pas du communisme. Les vrais gauchistes à tendance traditionnaliste, gros rouge qui tâche, auront reconnu la première phrase du premier tube de Karl Marx, le manifeste du Parti communiste. L'inflation est d'ailleurs aujourd'hui, comme le communisme en 1848, quelque chose que tout le monde craint, dont on redoute les signes avant-coureurs et dont on guette l'inévitable venue. Sauf que ce quelque chose est, exactement comme le communisme en 1848, un fantôme, une menace sans réel fondement, un fantasme transformé en ectoplasme blanchâtre par des esprits inquiets ou, comme Marx, très en avance sur leur temps et y compris sur le nôtre. Donc, je m'explique. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Depuis la Première Guerre mondiale, quasiment chaque année, les prix des biens de consommation augmentent. Ils peuvent augmenter fortement, comme en Argentine, voire de manière délirante, comme au Venezuela, ou faiblement, c'est-à-dire de moins de 2% par an, comme c'est le cas aux États-Unis et en Europe depuis la fin des années 1980. Parfois, les prix baissent, comme dans les années 30, en 2009 ou l'année dernière, dans certains secteurs les plus touchés par la crise. En général, la déflation, c'est un très mauvais signe. Donc, quand on dit que l'inflation est de retour, ça veut dire qu'on s'attend cette année à une hausse des prix de plus de 2%. Avant même de voir pourquoi cette peur s'installe, on va déjà se demander si elle est justifiée, si effectivement l'inflation est quelque chose à redouter. En principe, l'inflation entraîne une diminution du pouvoir d'achat. Si les prix augmentent, on peut acheter moins de choses. En réalité, si les salaires et si les revenus en général augmentent au même rythme que les prix, l'effet est nul. À long terme, on constate qu'une inflation faible va de pair avec une croissance régulière. La hausse des prix, si elle reste modérée, stimule l'investissement des entreprises sans décourager la consommation. D'ailleurs, du coup, l'objectif de la BCE, c'est un petit peu moins de 2% d'inflation par an. Alors pourquoi c'est mal, l'inflation ? On a tous en tête l'image de l'Allemagne de 1923, les enfants qui jouent avec des liasses de billets, les gens ordinaires qui vont au marché en poussant une brouette remplie de billets. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation, et effectivement, il s'agit d'un phénomène dramatique. Mais l'inflation qui s'annonce en Europe reste plutôt modérée, autour de 3-4% par an, pas 1000%, pas 1 million%, comme on a pu connaître dans certains pays. Alors où est le problème ? Le problème, c'est le revenu que l'on peut attendre de la rente. Imaginons un riche, très riche de préférence, qui possède un capital à placer.
Il peut acheter les produits financiers, les actions qui rapportent 5% par an, des produits un peu plus sophistiqués, mais dont la valeur peut s'effondrer du jour au lendemain. Il peut aussi, et il va, équilibrer son portefeuille en achetant des produits qui rapportent pas grand-chose, moins de 1% par an, mais qui sont sûrs comme de la dette de l'État européen. Si l'inflation monte à 4% par an, la valeur réelle de son placement baisse. Notre entier va progressivement s'appauvrir. Si en plus l'État en question a la fâcheuse idée d'indexer les salaires sur l'inflation, c'est-à-dire d'obliger les employeurs à augmenter les salaires pour que les salariés gardent le même pouvoir d'achat, alors l'inflation risque de s'auto-entretenir et d'augmenter au détriment de notre pauvre rentier. On rentre en effet dans la course prix-salaire dénoncée en son temps par Milton Friedman. Les prix augmentent, ce qui baisse le pouvoir d'achat des salariés. Les salaires sont donc rehaussés pour suivre la hausse des prix, mais cela diminue les marges des entreprises qui, pour conserver leurs profits, augmentent les prix de vente de leurs produits, ce qui alimente l'inflation. Il faut donc, pour protéger notre rentier, briser ce cercle vicieux et ne pas augmenter les salaires en cas d'inflation. C'est d'ailleurs ce que l'on a fait depuis les années 80, ce qui a effectivement permis d'enrayer l'inflation qui était forte après les deux chocs pétroliers. Un autre moyen de protéger le rentier est d'augmenter le taux d'intérêt qu'il faut payer pour emprunter. Cela revient à rendre l'argent possédé par le rentier plus cher à emprunter, plus difficile à trouver, donc plus rare, et lui donner plus de valeur. Là encore, la hausse des taux d'intérêt est une politique qui a été menée avec succès dans les années 80 pour juguler l'inflation. Seul problème, elle appauvrit les emprunteurs, c'est-à-dire les ménages qui cherchent à se loger, les entreprises qui veulent investir ou les États qui auraient du mal à boucler leur budget. Et donc on commence à voir le piège de l'inflation se dessiner. Pour éviter que les rentiers qui prêtent aux États et aux entreprises s'appauvrissent, on doit baisser les salaires réels et augmenter les taux d'intérêt, ce qui risque d'appauvrir tout le monde. Autrement dit, le pire dans l'inflation, c'est pas tant les brouettes de billets que les remèdes utilisés pour éviter les brouettes de billets. Si on reprend l'exemple de l'Allemagne, l'hyperinflation de 1923 a poussé Hitler à tenter un coup d'État foireux à Munich, mais c'est la politique désinflationniste de 1932 qui l'a amené au pouvoir. Que se passe-t-il aujourd'hui? Après une très forte récession en 2020, l'économie repart. Les entreprises anticipent un redémarrage de la demande et investissent. Elles créent des emplois, augmentent la production, mais font face à des difficultés liées encore à la crise sanitaire. Les processus de production ont été fortement perturbés. Certains composants deviennent plus chers car ils sont plus difficiles à faire venir. De même, les prix de l'énergie augmentent car les producteurs de pétrole et de gaz ont volontairement diminué leur production pour éviter l'effondrement des prix et n'arrivent pas à suivre la demande. Enfin, une partie des chômeurs et des sans-emploi ont renoncé à se faire embaucher pendant la crise. Les entreprises, en particulier aux États-Unis, augmentent les salaires pour les attirer. Entre le prix du pétrole, les pièces détachées fabriquées en Asie et les salaires américains qui augmentent, tout pousse à l'augmentation des coûts de production et donc à la hausse des prix des biens de consommation. Mais tout ceci n'est que conjoncturel et est lié à la situation actuelle de reprise. Rien ne justifie réellement une peur de l'inflation durable. Mais peu importe, on entend déjà le parti des rentiers, représenté par ses porte-paroles officiels et officieux, Bruno Le Maire ou Patrick Artus, nous avertir des lendemains qui déchantent. Il va falloir rembourser la dette, limiter les hausses de salaire, faire la réforme des retraites, car sinon les taux vont remonter, la France va glisser inévitablement dans l'inflation, voire l'hyperinflation, et devenir à nouveau Venezuela. Finalement, ce fantôme de l'inflation est bien utile pour rappeler chacun à l'ordre. Il n'y a pas d'argent magique et seules les réformes douloureuses seront récompensées. La rente a encore de très beaux jours devant elle.
Voilà une bonne explication de ce qu'il faut penser, mais c'est analysé avec brio, monsieur Alex. Alors, nous faisons faire une petite pause pour digérer du cours d'économie, bien sûr. Et alors, en lien avec nos invités qui viennent nous présenter le Festival Images Mouvementées d'Attaque, qui commence la semaine prochaine. Et le sujet, c'est la servitude volontaire. Alors, on va expliquer ce que c'est. Mais alors, on a cherché des thèmes musicaux qui peuvent toucher la servitude volontaire. Et l'idée qu'on a eue, c'est de dire qu'une des grandes servitudes aujourd'hui, c'est quand même la voiture, les embouteillages. Alors, on écoute Sanseverino.
C'est la petite guitare.
Les 4 L dans les embouteillages, tu penses encore autant que temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les armes à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4 L de ta pompe.
Et on se retrouve à nouveau sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est encore l'émission Mode d'emploi.
Et si vous nous écoutez, c'est que vous n'êtes pas à la fête de l'UMA, peut-être parce que vous aimez d'autres festivals, mais vous pouvez être aussi à la fête de l'UMA demain ou après-demain. Il y a un autre festival qui commence la semaine prochaine, du 16 septembre au 5 octobre, qui a lieu dans le nord de Paris et qui s'appelle le Festival Images Mouvementées. Alors on reçoit Christine, bonjour Christine.
Bonsoir.
Et bonsoir, oui, Eve-Marie.
Oui, bonsoir.
Voilà, donc vous allez nous expliquer ce qu'est ce festival et nous allons repartir un peu sur le passé. D'abord, première question toute bête, C'est quoi ce festival Images Mouvementées ?
Alors, ce festival Images Mouvementées, dont la première édition a eu lieu en 2003, c'est né en fait de la rencontre à l'époque du directeur du cinéma, du cinéaste, qui voulait faire un festival de documentaires, et il a rencontré quelqu'un d'Attaque. Donc ça, c'est on a créé un projet. C'est donc les deux idées se rencontraient. Donc on a commencé à faire une programmation, et ça a duré comme ça 3 ans au cinéma des cinéastes. Et dès la première édition, il y a eu une forme qui finalement ne changera pas au cours du temps, c'est-à-dire que déjà on voulait faire un vrai festival de cinéma avec vraiment des bons films dans tous les genres, documentaires, fiction, courts, longs-métrages, animation, il y a même eu des films expérimentaux. On a même fait une fois un ciné-concert avec Metropolis de Fritz Lang, par exemple. Donc vraiment, alors des films contemporains et également des films, des grands classiques. Donc c'est ça déjà l'important, un vrai festival de cinéma. Avec une thématique générale qu'on décline après en sous-thèmes et des débats après certains films avec des intervenants de la société civile, donc des économistes, des sociologues, des historiens, des philosophes. Et naturellement, les réalisateurs des films étaient systématiquement invités. Alors, à titre d'exemple, bon, les grandes thématiques, par exemple, on a fait La fabrique de l'opinion, L'être humain malade dans son environnement, Politique, l'affaire de chacun, les médias, une arme de manipulation massive, ce genre de choses. Alors, on l'a fait 3 années de suite au cinéma de cinéastes, ensuite on a changé de lieu. On l'a fait au Grand Parquet, après on l'a fait au Sept Parnassien, au Comartin, après à La Clé, pour finalement revenir au Comartin. Là, c'est au Comartin qu'aura lieu la...
Oui, donc le festival du 16 septembre au 5 octobre est entièrement au cinéma Les Cinq Comartins, qui est vers la gare Saint-Lazare.
C'est à Saint-Lazare, tout à fait, oui. Alors, les premières années, on avait vraiment une programmation très importante. Il y avait à peu près une quarantaine de films. Il y avait des séances tous les jours de la semaine. On pouvait organiser des événements, comme j'ai parlé du ciné-concert, par exemple, où il y avait un pianiste et un saxo. Et puis après, on a été obligé de réduire la voilure parce que ça marchait moins bien, donc on a fait moins de séances. Depuis les débuts, j'ai calculé à la louche, hein, il y a eu des centaines d'intervenants, je crois qu'il y en a plus de 500 en fait, qui ont participé au débat. Concernant le financement, alors dès le début, le festival était soutenu par la mission cinéma de la ville de Paris. On avait également le soutien de la région Île-de-France. Bien naturellement, quand Pécresse est arrivé il y a quelques années, la subvention de la région terminée, ça c'est sûr. Voilà, bon, on y arrive quand même, hein, avec une subvention d'Attaque, le comité Attaque PNO, Attaque Paris Nord-Ouest, hein, c'est Attaque Paris Nord-Ouest qui vraiment porte le festival et l'organise. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet historique ?
On peut rentrer un peu dans certains détails. Par exemple, finalement, c'est quoi l'organisation de ce festival ? C'est un groupe de personnes, j'imagine.
Voilà.
Alors, il y a Attaque Paris Nord-Ouest, Parino. Donc, Attaque est divisée en comités locaux. Donc,
oui.
Dans Paris, il y en a une petite dizaine. Il y en a même ailleurs que dans Paris. Il y en a même jusqu'à Saint-Denis.
Disons. Ah oui, bien sûr. Oui.
Et ailleurs dans toute la France. Et ce comité a un groupe actif à l'intérieur qui s'occupe qui prend voilà. Un grand temps de sa vie à organiser le festival.
On est un petit groupe de quelques personnes. On se réunit une fois par semaine et pour déterminer quelle sera la grande thématique de la prochaine édition. Et puis après, en fonction de la thématique, trouver les films, choisir les films. On en voit énormément. On visionne énormément de films et après, on décline la grande thématique en sous-thèmes. Une fois qu'on a fixé un peu ça, on va chercher les intervenants. Il y a quelque chose d'important à préciser, c'est qu'à chaque édition, dès la première, on a une grande table qui est ouverte pendant tout le festival, sur laquelle il y a les livres des intervenants, les livres d'Attaque, les revues des partenaires, etc. Donc ça, c'est important aussi pour faire connaître les partenaires, les livres. Enfin, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, inutile de vous dire qu'on a aussi un site Internet, une page Facebook, et qu'on imprime des affiches et des programmes, naturellement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ?
Donc ça, c'était l'organisation. Mais finalement, on peut toujours se poser la question dans un festival, mais bon, le but, on imagine, c'est que les gens viennent, oui. parlent, écoutent, d'abord regardent et puis débattent. Mais est-ce qu'il y a une envie de faire réfléchir ? Les thèmes ne sont pas choisis au hasard. Donc si on reprend un des thèmes que tu as cité tout à l'heure, et on peut détailler qu'est-ce qui était, par exemple, sur le thème d'il y a 2-3 ans, mais qu'est-ce qui vous a motivé à trouver des noms pareils et qui vous a donné envie de lancer un sujet?
Alors on regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité. Quels sont les grands sujets du moment qui traversent un peu l'opinion? Et on essaie de voir un peu, de prendre un peu de la température. De quoi pourrait-on parler? Qu'est-ce qui pourrait intéresser? Et on arrive tant bien que mal à trouver une grande thématique qui nous semble intéressante. On choisit des thématiques généralement assez larges qui permettent après de décliner des sous-thématiques nous permettant finalement de parler de beaucoup de choses. C'est un des avantages des grandes thématiques un peu générales. Alors, l'ADN d'Attac, c'est quand même l'économie. Donc, on parle pas mal d'économie quand même. Mais aussi, on peut parler d'autres choses. Hein. On a parlé de, par exemple, on a fait une édition il y a 3 ans où désobéir, parce que c'était sur la désobéissance civile. On a fait une édition aussi sur le travail, donc tout ce qui entoure le travail, les conditions de travail, la souffrance au travail, etc. On a fait des choses autour de l'écologie aussi. On a fait une édition, par exemple, quand il y a eu la COP21, on a fait toute une émission autour de l'écologie et du réchauffement climatique. Donc voilà ce genre de choses.
Alors quand on décline en termes de cinéma, donc il y a pas mal de documentaires, bien sûr, mais il y a aussi du vrai cinéma, et il y a des fois des œuvres assez connues. C'est facile, finalement, de pouvoir faire passer un film connu un peu ancien au milieu d'un festival, politisé ?
Non, c'est-à-dire que... Du temps où il y avait une quarantaine de films, on pouvait proposer un large spectre de films, hein, de toutes les époques, dans tous les genres. Depuis qu'on a réduit la voilure, maintenant on n'a plus que 5 soirées, c'est devenu plus compliqué de proposer des vrais films de cinéma et particulièrement des fictions, puisque après les films, il y a un débat avec des intervenants. Et là, c'est un peu compliqué avec les films de fiction. Donc maintenant, on ne fait quasiment plus... que du documentaire. La seule fenêtre qu'on a pour passer des films de fiction, c'est les courts-métrages. Alors, on tient énormément à présenter des courts-métrages. Donc, généralement, après un long, on présente un court-métrage. Et ce qu'on fait souvent aussi, c'est il y a une séance c'est un programme de court-métrage. On a une thématique et on fait un programme de court-métrage. On tient vraiment à faire ça. Mais donc depuis quelques années, on ne fait plus quasiment que du documentaire en long-métrage.
Alors un autre sujet qui est proche, c'est finalement quels sont les beaux souvenirs. Un film, un intervenant qui a pu marquer le festival, par exemple, il y a quelques années ou à venir. Enfin, on en parlera après de l'actif du festival.
Tu veux répondre ou
Moi, un souvenir qui est assez lointain, qui me reste au cœur, c'était une séance scolaire. À l'époque où on était au cinéma des cinéastes, donc dans une très grande salle, on avait projeté le film On n'est pas des steaks hachés. Ce souvenir après de cette salle de collégiens, lycéens, qui reprenaient la chanson en chœur et qui était galvanisés par ce film, c'était un souvenir assez, assez fort.
Je me souviens aussi d'une édition qu'on a faite. C'était au Grand Parquet, pour le coup, c'était pas dans une salle de cinéma, c'était la seule édition qu'on a fait qui était pas dans une salle. On a fait tout un événement autour de la commune. On avait acheté du vin rouge et du cassis pour faire des communards pour offrir au public. Et puis, on avait fait aussi toute une nuit. On avait fait une nuit de documentaire. Alors là, c'était formidable. Moi, je me souviens de cette édition. C'est une de celles qui m'a le plus marquée, celle du Grand Parquet. C'est génial, ça.
Eh bien, on va faire une petite pause musicale. Alors, toujours dans le thème dont on va parler juste après, le thème de cette année qui est la servitude moderne. Alors, une des servitudes, c'est la bouffe, la mauvaise bouffe. Alors, la personne qui va chanter, je ne vais pas vous dire qui elle est. À vous de découvrir qui est le chanteur. Il y a un lien avec le cinéma, on peut s'en douter. Nous allons écouter Fast Food.
Plus rien qu'une rage sourde, un impossible à hurler, l'horrible impuissance dont il faut. Cette époque va nous fournir.
Vous êtes à nouveau sur 106.3, c'est l'émission Mode d'emploi, et on reprend l'interview là où on l'avait laissée.
Et l'interview, c'est l'interview de Christine et Eve-Marie, qui viennent au nom du festival Images Mouvementées d'Attaque, qui aura lieu au cinéma Les Cinq Parnassiens pour plusieurs soirées, du 16 septembre au 5 octobre prochain. Alors on vient de parler un peu de l'historique du festival, et maintenant on va parler évidemment de l'édition, justement, 2021, La servitude moderne. Alors déjà, ce titre... C'est quoi la servitude moderne ?
La servitude moderne, c'est ça part de cet objet, par exemple, qu'on a dans les mains, je ne sais, un nombre incalculable de fois, qui est notre téléphone portable, où voilà, on est la proie de ce qu'on appelle les GAFAM et de tout un tas de choses. C'est aussi pour, c'est même dans certains cas lié au travail, parce qu'on a une séance qui va parler des salariés, enfin pas salariés justement, mais des gens qui travaillent, qui sont employés par les plateformes. Que ce soit les Uber ou autres. Donc ça va jusque-là, en fait. C'est une autre forme de servitude où si ça existe peut-être de manière ponctuelle, mais l'esclavage n'existe plus en tant que tel. Quelque part, on est d'accord pour cette servitude. Et ça se voit très bien justement chez ces personnes qui sont employées, qui courent par exemple, qui pédalent d'une course à l'autre. Voilà, ils ont l'impression d'être leur propre patron. Mais dans quelle mesure ? Et c'est quelque chose qu'on peut reporter dans différentes catégories de justement de la vie moderne et de ce qu'on appelle aussi le progrès. Progrès qui va toujours avec des contreparties, notamment sur nos libertés, parce que tous les outils qui sont censés, qu'on nous présente comme de la protection de la sécurité, sont aussi généralement des atteintes à nos libertés. Donc ça, ce sera l'objet aussi d'une projection débat autour du film « Tous surveillés ». 7 milliards de suspects, donc sur la surveillance, parce que c'est aussi, enfin, il y a aussi ce revers-là, toujours dans le progrès, entre guillemets, et ce qui constitue la vie moderne, c'est, voilà, toujours, ça va toujours avec une contrepartie. D'ailleurs, on a mis comme sous-titre « Vers le meilleur des mondes », point d'interrogation, parce que on voit bien, quand même, jour après jour, tous ces ouvrages de science-fiction prendre réalité, en fait.
Et donc, il y a plusieurs servitudes. Alors, on dit qu'il y a des victimes consentantes. Hein. Je reprends un peu
voilà,
les termes
de
l'affiche du festival et aussi l'idée que finalement la question, alors c'est une formule très, très altermondialiste, mais est-ce que c'est ça le seul monde possible ? Quelles sont les autres possibilités face à cette servitude informatique, électronique, de vitesse du temps qui passe, il faut courir plus vite que son vélo ?
Oui, bah en fait, pour refaire un peu l'historique de la manière dont on est arrivé à ce thème. Donc quand on cherchait un thème, donc à la fin de l'année dernière, juste après la précédente édition, on s'était dit qu'on pourrait envisager de remettre en question et même de détruire le capitalisme, qui passe pour une évidence, mais qui honnêtement n'en est pas une. Et en fait, en visionnant des films, donc sur cette remise en question du capitalisme, c'est les films en fait qui nous ont amenés à dégager ce thème de justement de la servitude moderne, parce que finalement, la manière dont l'économie, pardon, dont l'économie actuelle fonctionne. On parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure des GAFAM, mais d'une manière générale, cette nouvelle forme de capitalisme crée évidemment de la servitude, et c'est ça qui est apparu en fait en visionnant les films. Donc on a resserré un petit peu le thème, on s'est déplacé vers ça en fait.
Alors rentrons dans le détail justement des films. Donc on en a déjà parlé d'un qui est donc un documentaire sur le travail lui-même, mais il y en a d'autres.
Alors donc on commence jeudi donc au 5 Comartin. Je répète le cinéma parce que tout à l'heure tu parlais de Parnassien, ce qui n'est pas le même.
Pardon.
N'est pas le même.
Oh là 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 là.
Le même cinéma. Donc on commence samedi donc au 5 Comartin avec un film qui s'appelle Overseas, qui est un très beau documentaire de cinéma qui parle en fait de ces femmes aux Philippines qui sont formées en fait pour partir à l'étranger comme employées de maison, nounou, etc. Et la formation en fait va très loin parce qu'il y a, elle comprend des jeux de rôle où ces jeunes femmes vont devoir jouer tous les rôles, y compris le rôle des patrons, etc. Et envisager toutes les maltraitances qu'elles pourraient subir et la manière dont elles doivent réagir, etc. Donc elles sont préparées vraiment aux aspects les plus terribles de leur future condition. Voilà, donc le débat qui suivra, on l'a intitulé l'esclavage moderne, parce que là on n'en est pas loin, même si encore une fois elles sont volontaires, ces femmes. C'est quoi ? C'est juste la nécessité économique qui les pousse à partir. On leur a pas mis des chaînes, on leur a pas mis quoi que ce soit, mais le résultat est le même. Voilà, donc ça c'est la première séance. La deuxième séance, donc on arrive au mardi suivant, le mardi 21 septembre. Donc là, c'est le film dont on parlait tout à l'heure, Travail à la demande, donc, qui va parler globalement de cette ubérisation du travail et des conséquences. Ensuite, le jeudi 23 septembre, on a un programme de court-métrage sur le travail, mais le travail sous l'angle de...
Sous l'angle du management de l'entreprise, du management, quoi.
C'est ça. Qu'est-ce que cette logique néolibéral fait au travail et en quoi ça...
Le management par la souffrance.
Voilà, donc on a un débat après avec Daniel Linhart, Thomas Coutreau et des représentants de l'atelier des droits, un cabinet d'avocats. Ensuite, on a le 28 septembre, le film dont j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, « Tout surveiller, 7 milliards de suspects », donc sur les méfaits de la surveillance généralisée, avec aussi de superbes intervenants. On essaye, en fait, chez les intervenants, d'avoir à la fois des spécialistes universitaires, des spécialistes des questions donc vraiment universitaires, avec tantôt économistes, tantôt sociologues, politologues, et si possible aussi d'avoir d'autres points de vue, des points de vue associatifs, d'avoir par exemple sur la séance travail à la demande, on a un représentant du collectif des livreurs autonomes des plateformes, donc pour essayer d'avoir un peu d'équilibrer un petit peu aussi les points de vue, pas avoir que des universitaires. Ensuite, on passe à la grande avant-première, parce que si chaque année, on essaye d'avoir au moins une avant-première. Donc là, c'est le film « Debout les femmes » de Gilles Perret et François Ruffin. Et François Ruffin sera présent pour discuter avec le public à l'issue de la projection. Donc là, ce film-là, c'est sur les femmes, parce que ce sont quasi uniquement des femmes, qui sont dans les métiers qu'on dit les métiers du lien, les métiers d'aide à la personne, et qui sont des métiers extrêmement dévalorisés, et alors que ce sont des conditions de travail difficiles et des métiers essentiels. Donc voilà, on suit le travail des parlementaires qui essayent de...
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le travail de parlementaire de Ruffin, depuis son idée, pour proposer un projet de loi pour aider ces femmes. Et on voit tout son parcours et toutes les difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Assemblée nationale l'a acoquiné avec un LR. Et alors, au départ, il est complètement stupéfié, Ruffin, c'est assez amusant. Et petit à petit, ils vont finalement faire ce bout de chemin ensemble, et ils vont finir par se parler, etc. Et on voit le LR, d'ailleurs, parce qu'ils vont vraiment rencontrer ces femmes chez elles, et on voit le LR qui, vraiment par moments, est assez stupéfié et très ému de découvrir ce qu'il découvre. C'est vraiment bien dans le film.
Voilà, donc grande avant-première. D'ailleurs, j'en profite pour dire un mot. C'est bien, si vous voulez assister aux séances, d'aller sur le site du cinéma pour acheter vos places en avance, parce qu'on n'est pas sûr. Par exemple, sur cette séance-là, il est possible que le soir même, il n'y ait plus de place.
On va faire le plein.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez assister, si vous êtes sûr de vouloir assister à une séance, après, achetez vos places sur le site du cinéma Les 5 Comartins. Et donc, pour finir le festival, la dernière séance du mardi 5 octobre, ce sera un film qui s'appelle La bataille du libre, donc qui part de cette grande logique des logiciels libres, mais d'une manière plus générale, comment est-ce que on peut...
Comment on peut essayer de se soustraire à l'emprise des multinationales,
voilà.
On a voulu terminer sur une note un peu optimiste. Il y aura des gens de Framasoft, des gens
que nous avons déjà reçus dans l'émission.
Voilà. Donc, c'est pour terminer sur une note un peu,
voilà, un peu positive, enfin voilà, constructive, on va dire.
Ouais, c'est-à-dire, quelles sont les alternatives? D'autres mondes sont possibles, bien entendu. Voilà, ben merci pour cette présentation. Donc, on rappelle que le festival, donc Images Mouvementées, le festival du cinéma d'attaque, ce sera la 19e édition en cette année 2021, aura lieu donc les mardis et les jeudis, du 16 septembre au 5 octobre, au cinéma Les 5 Comartins, que vous pouvez trouver proche de la gare Saint-Lazare. Voilà, merci pour votre intervention. Alors, on va venir sur la fin de l'émission, vu qu'on va commencer par les chroniques de Jean-Marc, que nous avons mis à la fin, vu qu'il a un petit souci d'organisation. Et la première de ces chroniques, et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2021, et demain, ben, c'est le 11 septembre.
Demain, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est une date qui sonne à l'oreille de tout un chacun, bien évidemment. Mais pour moi, le 11 septembre, c'est avant toute chose le 11 septembre 1973, quand Augusto Pinochet prenait donc par la force le pouvoir, assassinait Salvador Allende, et tout ça avec l'appui total, sans faille, des États-Unis, qui n'avaient jamais pu supporter le fait qu'un pays producteur de cuivre et asservi aux États-Unis puisse devenir indépendant et devenir en plus socialo-communiste. Ce drame du 11 septembre a provoqué pour de très 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 nombreuses années le massacre du peuple chilien, le massacre de toute opposition, des viols politiques en série, des tortures innombrables, sans compter toutes les personnes qui, après avoir été arrêtées, torturées, ont disparu pendant donc plus d'une décennie. Alors, mon cœur saigne pour l'Amérique du Sud et pour le Chili en cette veille du 11 septembre.
Jean-Marc continue à nous parler d'histoire, et là il revient beaucoup plus dans le temps encore, il revient au Concile de Trente.
La mairie de Paris, écolo et socialo, à moins que ce ne soit l'inverse, vient de faire un coup de com' pour pas cher, tout en déclenchant une polémique complètement stupide et stérile, comme les adore la misérable presse qui occupe l'espace médiatique. Le passage à 30 km/h dans tout Paris. Roulement de tambour et gros bras musclés les verts. Sourire banane rose et vert des socialistes, écolo pour la com', mais super bétonneur pour les Jeux Olympiques. La droite voiturière hurle au scandale. Pécresse, on aura tout vu, défend les travailleurs de banlieue qui seraient discriminés. Les plus en verbe sortent des statistiques au doigt mouillé pour prouver qu'on pollue plus à 30 qu'à 50 km/h. Hidalgo se drape dans la légitimité de l'enquête menée auprès des Parisiens qui plébisciteraient la mesure en oubliant juste que de dire que seules 3800 personnes ont répondu à l'enquête. Et tout ça pourquoi? Pour découvrir que du fait des feux et des embouteillages, la moyenne de vitesse à Paris dans la journée est d'environ 16 km/h depuis très longtemps. Quel talent!
Alors on continue à parler du gouvernement, bien sûr, avec la politique actuelle. Jean-Marc va nous expliquer tout ce que pense Macron.
La politique du gouvernement est scientifique. On se tue à vous le répéter, le gouvernement a raison, parce qu'il se fonde sur la science et qu'il sait tout. Il faut un Ausweis pour aller prendre un café en terrasse, mais vous pouvez prendre librement le métro aux heures de pointe. On ne taxe pas les riches parce que c'est mauvais pour l'économie et que l'on compte sur le ruissellement. Bilan, les riches n'ont jamais été aussi riches, les pauvres sont plus nombreux et l'économie se porte mal. On supprime les fonctionnaires parce que ça coûte trop cher et que ça ne sert à rien, comme chacun sait, mais zut, la crise Covid arrive et l'on manque de soignants. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement continue de supprimer des postes pendant la crise. Le chômage augmente, si l'on en prend en compte toutes les catégories. Que faire ? Poursuivre les chômeurs, réduire les allocations, bien sûr. Pour la relance économique, rien de tel que des travailleurs pauvres et des précaires. Aucun syndicat n'est favorable à la réforme des retraites, car cela correspond à un allongement des cotisations et une baisse significative des pensions pour tout le monde. Mais pour le gouvernement, c'est une priorité indispensable. Pour le deuxième quinquennat, quand même. Les exemples ne manquent pas de la cohérence gouvernementale et de l'amour de l'intérêt général qu'on y décèle. Hélas, ces idiots antisociaux risquent fort de repasser à la prochaine présidentielle, tant le système est absurde, l'abstention démesurée, l'information inexistante ou biaisée et l'opposition délitée. Bref, il y a de la joie.
Et Jean-Marc, de nous rappeler bien sûr que la République, ben finalement cette 5e République, est-ce que ça ne serait pas quelque part une sorte de monarchie ?
Une république monarchiste, ou presque. Le 4 septembre est l'anniversaire de la 3e République. Une république née dans la déconfiture du Second Empire et de la guerre franco-prussienne. Une république proclamée un peu à l'esbrouf par des républicains encore minoritaires. Une république proclamée un peu par hasard parce que les différentes factions royalistes n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur celui qui devait être roi. Une république fondée aussi sur le cadavre de la commune. Une république sans constitution. Une république devenue républicaine presque 10 ans après sa proclamation. Mais une république militariste et colonisatrice. La plus longue de nos républiques aussi, pour l'instant. Mais une république morte en une journée de la trahison de Pétain. Bref, une république étrange et paradoxale, avec des personnages comme Jules Ferry, anticommunard et favorable à la colonisation, mais qui fonde l'école gratuite, laïque et obligatoire. Des Clémenceau, d'abord socialistes et presque libertaires, et qui finissent par faire tirer sur les ouvriers et vouloir la guerre à outrance. Et pourquoi pas, un président qui tombe amnésique et en pyjama d'un train, toute une histoire, quoi.
Et maintenant, il faut craindre le pire, vu que Jean-Marc, va tenter sa petite chronique sur les vaccins.
Voici deux définitions du vaccin trouvées dans des dictionnaires et des encyclopédies. Première définition. Substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Deuxième définition, un peu plus complète. Un vaccin est une préparation biologique administrée à un organisme vivant afin d'y stimuler son système immunitaire et d'y développer une immunité adaptative, protectrice et relativement durable contre l'agent infectieux d'une maladie particulière. Il en résulte clairement qu'un vaccin doit conférer une immunité totale ou proche de 100% et que son efficacité doit être durable. Si l'on cherche le mot immunité maintenant, il paraît qu'une immunité provient de 3 facteurs principaux. L'immunité dite naturelle, qui fait que certains résistent bien, voire totalement aux agents pathogènes, tandis que d'autres, moins chanceux, ont des défenses faibles. Deuxième immunité, qui suit le développement de certaines maladies, normalement. Dans ces cas, le fait d'avoir été malade et d'en être sorti confère une immunité. Troisième sorte d'immunité, l'immunité conférée par un vaccin. Alors, après de ces 5 définitions, on se pose des questions. Après avoir rappelé ces éléments très simples, peut-on qualifier les injections à la mode de vaccins ? Si, comme le disent eux-mêmes, labos et dirigeants, on continue de pouvoir être contaminé ou de contaminer les autres après la vaccination ? Si l'on peut déclarer la maladie après la vaccination ? Si la durée de protection, déjà très théorique, est si brève que nous en sommes à 2 voire 3 injections proposées en à peine plus d'1 an ? Peut-on parler encore de vaccins ? Ne serait-il pas temps de réfléchir à ces questions avant de continuer à injecter à tout va ? Mais bien entendu, le fait de poser la question, une simple question, aujourd'hui, est taxé de complotisme. Je serai mis dans la minute, dans le même sac que les Illuminati, les tenants des pyramides comme preuve de la présence extraterrestre, ou les fadas qui pensent que la Terre est plate. Qu'à cela ne tienne.
Qu'à cela ne tienne, oui. Alors, on va revenir à la politique, parce que c'est tellement les chaises musicales que Jean-Marc voit ça comme un véritable vaudeville.
Vaudeville pour l'Élysée. La pré-campagne pour 2022 bat déjà son plein et tourne, pour paraphraser le slogan de 1981, à la farce tranquille. On dénombre à ce jour plus de 30 personnes ayant fait acte de candidature. Mais le couperet des 500 signatures, un des éléments les plus antidémocratiques de la Constitution, introduit jadis par feu Giscard d'Estaing, risque bien de priver la majorité des candidats de candidature. Les LR, d'abord, offrent un singulier tableau. Les deux candidats les mieux placés pour l'instant ont tous les deux quitté le parti qu'ils entendent rassembler. Tandis que l'un des autres prétendants déclare préférer l'outsider fascisant Zemmour à ses petits camarades. La gauche n'en reste pas moins, avec un Mélenchon aussi brillant que détesté et qui refuse toute négociation, le PS qui croit avoir trouvé la martingale avec Hidalgo, qui ne fait même pas l'unanimité dans son micro-parti, les Verts perdus dans une primaire obscure et confuse, très mal en point. Tout cela peut faire rire ou pleurer. En attendant, cela entre parfaitement dans la stratégie de Macron, qui, malgré un bilan calamiteux, compte sur le Covid, la gauche et la droite pour être réélu sans problème. Et ça pourrait marcher. Au milieu de ce marasme, l'acte de candidature de Montebourg, qui a passé assez inaperçu le 4 septembre, pour anecdotique qu'il puisse paraître aujourd'hui, est-il peut-être une possibilité à creuser, puisque celui-ci peut être un dénominateur commun. Il vient en effet du PS, mais s'est montré très tôt très critique envers le PS, envers Hollande, envers Valls et envers un certain Emmanuel Macron, conseiller puis ministre, et qu'il a fini par démissionner, ce qui ne manquait pas de panache. Montebourg est un des fervents partisans d'une 6e République, ce qui le rapproche de la France insoumise, comme sa pensée sur la réindustrialisation et le Made in France. Longtemps taxé d'être un productiviste anti-écolo, Montebourg a su prendre un virage en se mettant à l'apiculture bio, qui le rapproche de la doxa écolo. Pour l'instant, il est plutôt seul. Mais ne serait-il pas un dénominateur commun qui permettrait de faire alliance à gauche, avec à la clé une chance, aussi minime soit-elle, de l'emporter? Pourquoi pas, après tout? On n'a pas mieux à se mettre sous la dent.
Voilà, la déclaration de Jean-Marc, qui redevient socialiste après
je sais pas, 25 ans,
25
je crois.
Ans, voilà. Pourquoi pas, hein, on en est là.
On aurait oublié d'évoquer l'hypothèse chevènement 2022.
Oui, tout à fait. Alors, on ne pense pas aux solutions les plus simples.
Moi, je propose un congrès d'Épinay, là, dans 2 mois.
Oui, on nous fait remarquer que Jean-Marc n'est pas là, donc les absents ont toujours tort. C'est tout à fait vrai, mais enfin, n'empêche qu'il a présenté son sujet, Montebourg président, avec brio, non? Je sais pas, c'est brio, c'est son premier ministre, non? C'est ça. Alors, on va finir par une petite chronique issue d'Alternative économique sur un sujet présenté ici par Nadine Levrato, mais qui est en fait un sujet de comptoir bien régulier, c'est-à-dire finalement l'emploi, mais il y en a. Hein, on peut repartir de Macron, bien sûr.
Oui, voilà, on a un spécialiste, il suffit de traverser la route.
Il suffit de traverser la route, nous disait Macron à quelqu'un qui disait qu'il cherche du travail. Et dès qu'un emploi est un peu vacant sur une affiche, dans un bistrot, dans un bar ou dans une entreprise quelconque, évidemment, on entend le discours récurrent, il y a du travail, pourquoi il y a autant de chômeurs? Alors Nadine Levrato se pose cette question avec un autre angle. Elle dit, mais finalement, pourquoi on en parle tellement aujourd'hui? Est-ce que c'est si neuf que ça? Bon, évidemment, il y a une reprise économique déjà. Hein. On prévoit une croissance, bon, après cette forme de récession, de 5 à 6 %. C'est pas tous les ans qu'on a ce genre de chiffres. Donc l'activité reprend. Elle est même encore en hausse ces derniers temps. Mais au MEDEF, il y a eu tout ce que je viens de dire, cette vive inquiétude sur l'emploi.
5 à 6 % de croissance en un an en France. La dernière fois, c'était en 72, hein, si mes souvenirs sont bons.
Et donc, dans cette logique, le MEDEF a peur qu'il n'y ait pas, que les emplois restent vacants et appelle avec toute sa verve de Geoffroy Roux-de-Bézieux, puis Bruno Le Maire, même la Confédération des petites et moyennes entreprises, il faut que les gens se mettent au travail, voyons. Alors, une enquête pourtant, finalement, dit que quels sont les taux d'emploi vacants dans les entreprises de plus de 10 salariés? Ça fait seulement 1,8%. Donc, c'est pas des chiffres gigantesques. Ça représenterait 265 000 postes non pourvus. Une hausse, paraît-il, de 21 à 20% par rapport à l'an dernier, la même période. Mais l'an dernier, la même période, c'était Covid. Remontons un peu plus loin. Par exemple, si on remonte un petit peu le temps, on dit qu'elle est exceptionnelle, mais finalement, ce chiffre de 300 000 emplois pourvus, ben, en 2013, c'était 400 000 emplois pourvus.
300 000 emplois non pourvus.
Non pourvus, pardon. Excusez-moi. 300 000 emplois non pourvus. Et en 2013, on était à 400 000 emplois non pourvus. Plus exactement, des emplois qui étaient abandonnés, recrutement abandonné, faute de candidats. Ce qui est une notion un peu différente déjà, parce que le patron a parfois des candidats, mais il ne veut pas les prendre. Soit mauvaise formation, soit peut-être inadéquation, on ne sait quoi. Alors évidemment, ça fait aussi partie des arguments. On est mal formé, il y a deux raisons. Le déficit de formation, inadéquation des demandeurs d'emploi aux besoins de l'entreprise. Et d'autres, évidemment, de rugir aussi à l'excessive générosité du système social français. Donc, on est dans ces deux arguments.
On ne le dira jamais assez.
On ne le dira jamais assez. Mais finalement, est-ce que c'est si vrai que ça? Finalement, ce taux d'emploi vacant, ce taux d'emploi non pourvu, qu'il faut analyser beaucoup plus finement quand on regarde entre les emplois proposés, je ne vais pas rentrer dans ces détails qui sont assez subtils, que je ne maîtrise peut-être pas d'ailleurs, dans cette notion-là, finalement, il y a une certaine régularité de ces emplois non pourvus. Des emplois que personne ne veut. Ou peut-être, est-ce que ce sont même des emplois qui existent tant que ça? C'est des appels d'offres de patrons qui se disent, tiens, il y a une reprise économique, je vais mettre un emploi à l'embauche. Et puis, si je trouve la perle rare qui veut être payée pas trop cher pour faire beaucoup de boulot, je le pourvois. Si je trouve que des gens qui veulent un salaire normal pour travailler normalement, je ne vais pas le pourvoir. Et finalement, et je conclue là-dessus, et surtout, pas moi qui conclue, c'est Nadine Levrateau d'Alternative Économique. Est-ce que finalement ce débat, il n'est pas là et mis en avant parce qu'on est en pleine réforme de l'assurance chômage et que toute l'idée cachée derrière, c'est de faire croire qu'il faut faire baisser les aides sociales et que c'est un faux débat parmi d'autres. Voilà, c'était juste pour terminer par une petite note un peu plus du monde du travail pour l'émission Mode d'emploi qui s'achève et nous remercions nos invités en la présence donc de Christine et d'Ève-Marie du festival Images Mouvementées, festival du cinéma d'attaque. Ça va être la 19e édition la semaine prochaine, donc des mardis et jeudis du 16 septembre au 5 octobre au cinéma Saint-Comartin. Et merci pour votre présence ce soir. Les chroniqueurs étaient Gaël, Alex et Jean-Marc à distance. Et à la technique, on remercie évidemment Ludo et Jean-Marc. Et Gaël va nous expliquer et nous dire ce que l'on va expliquer pour la fin. J'ai dit Jean-Marc ? Donc Claude et Ludo à la technique, parce que si c'était Jean-Marc à la technique, je ne crois pas qu'on y arriverait.
Et on va écouter Bourguesinha de C'est où Georges.
Toda chegada, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile, olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Isso, vai chegando, vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade, o baile é nosso.